Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes le 30 avril déjà, dernier jour de ce mois, avant celui du mois des tulipes. Vous savez, hein, c'est le printemps qui arrive. Alors, mon nom est Claude Blas. J'espère que vous êtes quand même bien réveillés pour écouter nos deux collaborateurs qui sont avec moi ce matin. Bien fringant aussi, hein? On va commencer tout de suite en allant rejoindre M. Roger Roy.
Comment oui, bonjour, allez-vous? Bonjour,
Claude. La côte Hammer, si vous m'avez... soufflante.
Dans la pluie.
Non, d'accord.
Je n'apprends rien à personne. Moi, je vais vous parler de deux sujets qui font un peu contraste. Je vais vous parler d'un temps plus ancien, la musique classique d'un côté.
Ah,
mais je vous parle aussi d'un autre sujet, c'est Internet, les bitcoins. C'est une crypto-monnaie.
Oui,
crypto-monnaie, crypto, ça veut dire, ça vient du grec caché.
Ah, ouais, intéressant.
On va apprendre des choses. On va avoir des secrets à révéler ce matin.
Merci, Roger. Serge Hamelin, de votre côté.
Oui, alors moi, je vais vous parler du grand méchant lait. C'est pas le monsieur, là, c'est le lait qu'on boit. OK?
D'accord.
Et puis, je vais vous parler des laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières, les meilleurs.
Ah, d'accord.
La revue Protégez-vous les a tous essayés.
On reste dans le même sujet des dernières semaines, en fait. Hein?
Oui.
À peu près, oui, c'est ça. Et moi, ben, je vais vous lire un texte en deux temps que j'ai retrouvé dans le Reader's Digest. Et savez-vous qu'il existe un syndrome confusionnel?
Et ben ça oui, bien parle, sûr. Aussi, ouais. Même ici ce matin.
Ça
même
ici ce matin,
on est confus. D'accord. Non, mais dans ce cas, c'est quand on se retrouve à l'hôpital.
Ah, ben là.
Tout à fait. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On vous revient dans quelques instants avec Roger.
Ça devient sérieux, là.
Alors, Roger, entamons du bon pied cette émission avec votre premier article.
C'est le Bitcoin. C'est la monnaie que personne ne comprend. Et que, dans l'actualité, Marc-André Sabourin fait une tentative pour nous l'expliquer. Alors, il l'a fait avec des petits dessins. Alors, il a une planche, alors, il a une bande dessinée, il a différentes cases.
Ah, c'est quand même joli.
Oui, c'est ça. Fait que je vais vous lire les cases.
Mm-hmm. Allez-y.
En séquence.
En séquence, parfait.
Première case, c'est une animatrice qui ressemble à une animatrice du canal M qui est à la télévision.
Oui.
Il y a un téléspectateur devant elle. Ceux qui ont cru au Bitcoin dès le début rient dans leur barbe. 100 $ de Bitcoin achetés en 2010 valent aujourd'hui plus de 10 millions. Il y a un beau petit profit. Hein. Partout dans le monde, de grandes entreprises et même des États expérimentent la chaîne de blocs. Ça, c'est un mot qui va revenir, qu'il faut retenir. La technologie derrière le Bitcoin. Selon des experts, la chaîne de blocs pourrait réduire la fraude, accélérer les échanges commerciaux et même éliminer les banques. Et ce n'est qu'un début. D'autres crypto-monnaies, à part du Bitcoin, il y en a d'autres, sont... Puis là, il y a un clic, parce que c'est le téléspectateur ferme la télévision.
Ah.
Il dit, si vous vous sentez dépassé, c'est normal. C'est pas facile à comprendre, tout ça.
Mm-hmm.
Le truc, c'est d'y aller par étapes. Commençons par un achat ordinaire, un café. Je donne ma carte de débit au marchand qui demande à ma banque s'il y a des sous dans mon compte. Je reçois mon café... Mais le banquier prélève des frais pour son dur labeur. Oui. L'objectif du Bitcoin, c'est d'éliminer le banquier et d'éliminer tous les intermédiaires financiers.
Ah.
Mais sans banque, comment le marchand sait-il que j'ai assez de Bitcoin pour payer? Comment être certain que je n'ai pas piraté mon compte? Alors la clé, c'est confier la vérification à des milliers d'ordinateurs indépendants qui possèdent tous une copie de mon compte. Chacun approuve la transaction... puis modifie mon solde, impossible de tricher. Voilà, c'est ça la chaîne. Alors là, il y a un silence qui s'installe devant le commentateur, le téléspectateur, qui se prétend très savant. Il dit OK. En réalité, là, c'est pas mal plus compliqué. Il y a de la cryptographie, des ordinateurs appelés mineurs qui effectuent des calculs complexes, et oui, des blocs de données disposés en chaîne. Mais là, on laisse ça aux experts, comment c'est disposé en chaîne. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne de blocs est un livre comptable impossible à falsifier. On peut y mettre des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Il en existe déjà plus de 1500 de ces crypto-monnaies. Et bien d'autres choses aussi, comme des titres financiers, des bulletins de vote ou même la provenance d'un diamant. Dans tous les cas, l'objectif est d'éliminer un intermédiaire qui coûte de l'argent, par exemple un notaire, ou en qui on n'a pas confiance, le vendeur de diamants ou le vendeur de voitures usagées. Les plus convaincus croient que cette technologie bouleversera toutes les industries comme l'a fait Internet. La chaîne de blocs va changer le monde, sauf que, pour l'instant, la chaîne de blocs ressemble au web en 1999. Alors ça caracole, ça avance à pas de tortue, beaucoup de promesses, peu de résultats, et le tout accompagné d'une fièvre spéculative qui a toutes les apparences d'une bulle financière. Bon, alors on revient à la chaîne de blocs. Parce que si vous allez à Farnham, vous allez voir un édifice un peu spécial. C'est une ancienne usine de tapis qui est plongée dans la pénombre. Il n'y a ni marchandises, ni machinerie, et le chauffage ne fonctionne pas. Mais le bâtiment, grand comme 35 patinoires de hockey, n'est pas inoccupé. Il suffit de passer, de pousser une porte tout au fond pour se trouver devant 6600 mineurs. C'est ainsi que se nomment les processeurs ultra-performants qui, jour et nuit, tournent à plein régime pour effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement des chaînes de blocs. Un dur labeur pour lequel leur propriétaire, la société québécoise Bitfarm, est récompensé en crypto-monnaie. J'ai commencé en 2015 dans ma maison, raconte le cofondateur et président de 34 ans, Pierre-Luc Quimper. C'était rentable, mais le panneau électrique chauffait et j'avais peur de passer au feu, alors j'ai décidé de construire des installations professionnelles. Aujourd'hui, Bitfarm exploite 4 mines en Montérégie qui nécessitent une puissance de 27,5 MW, soit davantage que pour 14 000 maisons. La facture d'Hydro-Québec est salée. Mais le revenu de l'entreprise cotée en bourse en vaut la peine, environ 12 millions de dollars pour les mois de novembre et décembre 2017 seulement. Les frais d'exploitation accaparent près de 10 % des revenus et le reste de l'argent est investi dans l'aménagement de nouvelles mines, l'objectif étant de multiplier par 5 la puissance totale d'ici la fin de 2018. Alors on voit que ça consomme pas mal d'électricité pour entretenir ces blocs. Évidemment, ça fonctionne jour et nuit. Et même à ce rythme-là, apparemment, d'après ce qu'on a vu au début, ils ne réussissent pas à aller assez rapidement parce qu'on est toujours à la vitesse de 1999 pour ce qui concerne le fonctionnement. Alors, Hydro-Québec, à Hydro-Québec, c'est la folie. Depuis décembre 2017, la société d'État croule sous les demandes d'entrepreneurs, notamment de Chine, qui veulent utiliser son électricité peu onéreuse pour miner des crypto-monnaies. L'actualité a fait le point avec David Murray, président d'Hydro-Québec Distribution. Combien de demandes avez-vous reçues pour alimenter des mines de crypto-monnaies, des centaines. C'est comme si tout le monde avait découvert le Québec en même temps. D'habitude, quand un client nous aborde avec un projet de centre de données ou de véritable mine, on a le temps de planifier les choses. Les exploitants de mines de crypto-monnaie, eux, veulent être branchés hier. Ce sont de belles occasions pour Hydro-Québec, mais il faut analyser chaque cas en profondeur. Le mot d'ordre est « prudence », entre guillemets. Quels sont les risques? Les puissances requises sont énormes. Dans un cas extrême, une entreprise nous a demandé 1000 MW, ce qui est assez pour alimenter environ 515 000 maisons. Nous, on doit s'assurer que la fiabilité du réseau est maintenue. L'autre chose, c'est qu'il n'est pas question de risquer l'argent des Québécois. Je ne veux surtout pas investir dans une nouvelle ligne de distribution pour voir ces entreprises plier bagages 6 mois plus tard. Nous allons maximiser ce qui existe déjà, avec les acteurs qui s'installent dans des endroits où la capacité nécessaire est déjà présente, comme d'anciennes usines de pâte et papier. Est-ce que les entreprises payent Hydro-Québec avec des bitcoins? Puis, Parari dit non. Il n'y a pas question qu'on accepte les bitcoins. Mais c'est quand même sérieux. La Banque du Canada s'intéresse à la question. Ils ont fait les promesses de la chaîne de blocs intriguent la Banque du Canada, qui en 2016 a lancé le projet pilote Jasper pour tester cette technologie. Les deux premières phases qui se penchaient sur les opérations interbancaires se sont toutefois avérées peu concluantes, la banque jugeant la chaîne de blocs moins efficace que le système actuel. Les résultats d'une troisième phase réalisée en partenariat avec la Bourse de Toronto seront dévoilés au mois de mai. Les bitcoins sont là et d'autres crypto-monnaies, il y en a 1500. Ouais, mais le bitcoin, c'est celle qui est la plus répandue.
La plus populaire.
La plus populaire.
Mais il y a beaucoup de fluctuations avec ce type de monnaie.
Je ne voudrais pas dépasser la teneur du texte, là, parce que je ne suis absolument pas un expert dans le domaine. Mais évidemment, il faut les acheter. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais, c'est sur Internet. Il faut toujours un code. Et on dit, par ailleurs, il ne faut pas conserver son code parce qu'il y a bien des crypto-monnaies ou des bitcoins qui restent là parce qu'on a perdu son code. Et puis l'ordinateur vient pas nous dire, avez-vous oublié votre code? Là, parce que c'est terminé.
Non, c'est terminé. On perd tout.
On perd tout.
Ah! C'est comme les points, hein? C'est comme les points récompenses, alors qu'on les utilise pas. On les perd. On vous revient. Merci, Roger. On vous revient dans quelques instants avec Serge. Alors, Serge, peut-on se servir de Bitcoin pour acheter des laveuses sécheuses? C'est le premier sujet?
Là, pour l'instant, je ne saurais vous dire. Ah, mais mon premier sujet, ça sera le grand lait, le grand méchant lait.
Ah.
Et par Catherine Crépeau dans la revue Protégez-vous. Hein? Tantôt accusé d'être dangereux pour la santé, tantôt vanté pour ses vertus nutritives, le lait fait débat. Explication en 9 points. Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux, disait la publicité des producteurs de lait du Québec au milieu des années 2000. Un message qui reprenait celui qu'on répétait aux enfants à l'époque, il faut boire du lait pour être en bonne santé et avoir des os solides. Mais cette réputation de produit sain et inoffensif a été malmenée depuis. Les détracteurs du lait l'accusent, entre autres, de favoriser la prise de poids et l'inflammation chronique, de provoquer des troubles digestifs, d'être à l'origine de certains cancers et d'augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Certains remettent en question son apport nutritif ou tentent de démontrer que notre corps ne possède pas l'enzyme nécessaire pour le digérer. Et c'est sans compter ceux qui estiment que boire du lait de vache n'est pas naturel pour l'espèce humaine. De telles allégations n'ont pas toujours de fondement scientifique, mais elles circulent largement sur Internet, tant et si bien que le lait a fini par faire peur. Or, est-il aussi méchant qu'on le prétend? Une revue des recherches scientifiques publiées au cours de la dernière décennie tente à démontrer que le lait aurait un effet neutre sur la santé. En clair, il ne serait ni aliment miracle, ni poison, sauf pour les personnes qui sont allergiques à la protéine du lait, une affection rare chez les adultes, mais qui touche environ 2% des jeunes enfants. Ceux qui en souffrent doivent éviter les laits de vache, de chèvre et de brebis, qui peuvent provoquer chez eux des troubles digestifs, douleurs, vomissements, coliques, etc., des éruptions cutanées, plaques rouges, démangeaisons ou un choc anaphylactique. Même les personnes intolérantes au lactose, qui ne produisent pas assez de l'enzyme nécessaire à la dégradation de ce sucre du lait, ne sont pas obligées de bannir le lait de leur alimentation. Elles peuvent généralement en boire en petite quantité ou prendre des suppléments de lactase qui les aideront à digérer le lactose. Toutefois, les conclusions qui ressortent des études ne font pas nécessairement la différence entre le lait et les produits laitiers. De plus, souligne la nutritionniste et docteur en pharmacie Annie Ferland, elles valent généralement pour une consommation moyenne, soit de 2 à 3 portions de lait et produits laitiers par jour. Et pour les grands consommateurs, on ne peut pas dire que, comme le souligne la récente campagne publicitaire des producteurs de lait, étant donné que les recherches sur le sujet sont rares. Et pour départager le vrai du faux, nous passons en revue toutes les allégations qui circulent sur le lait et faisons le point sur les connaissances actuelles. Alors, dans les pages qui suivent, nous avons des questions. Ce sera vrai ou ce sera faux? Le lait augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Sera-ce vrai ou faux? Les produits laitiers fermentés réduisent le risque de maladies cardiaques et améliorent la glycémie. Le lait contribue à la santé osseuse et à la prévention des fractures. Ensuite, le lait favorise l'inflammation chronique et les problèmes articulaires. Le lait contribue à la prise de poids et à l'épidémie d'obésité. Le lait cause le cancer de la prostate. J'achève. Le lait contient des hormones nocives pour la santé. Nous ne possédons pas les enzymes nécessaires pour digérer le lait. Et enfin, le lait n'est pas nécessaire. Alors, de tout ce que je viens de vous dire, Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Aimeriez-vous en savoir quelques-unes?
On a hâte de savoir.
Oui. C'est le fun. Alors, donc, le lait augmente le risque de maladies cardiovasculaires. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'est faux? Eh bien, vous avez raison. Il n'y a pas d'évidence montrant un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et là, on explique tout ça. Je ne vous l'expliquerai pas. Hein? On va aller à la deuxième question. Les produits laitiers fermentés réduisent le risque de maladies cardiaques et améliorent la glycémie. C'est vrai ou c'est faux?
C'est neutre.
C'est neutre?
Eh bien, il est bon, hein? Il est bon. C'est incertain.
Ah, ouais, bravo. Ah,
j'avais pas le bon mot.
Franchement, là. Le lait contribue à la santé osseuse et à la prévention des fractures. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Alors, c'est vrai et faux en même temps.
Ah.
Ah oui. Bon, vous essayerez un verre de lait, puis vous briserez un os, là, et vous viendrez me le dire. Le lait favorise l'inflammation chronique et les problèmes articulaires. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Dans
ça.
La limite, vrai.
Le lait favorise l'inflammation chronique et les problèmes articulaires. C'est vrai ou c'est faux?
Je dis vrai. Roger dit non.
Moi, je dis faux.
Eh bien, c'est plutôt faux.
Ah, ben bravo.
Bravo, oui. Roger. Le lait contribue à la prise de poids et à l'épidémie d'obésité. C'est vrai ou c'est faux?
Bon, je dirais que c'est faux.
Et c'est faux.
Ah oui? C'est faux. J'allais dire vrai.
Le lait cause le cancer de la prostate. C'est vrai ou c'est faux?
Faux.
C'est faux.
Eh bien, c'est vrai et faux.
Ah,
vrai,
ben
faux. Alors, vous avez le choix. Hein? Vous prenez un verre de lait, vous dites pas de cancer, et vous prenez un autre verre de lait, cancer. Hein? C'est bon. OK? Mm-hmm. Ensuite, j'achève. Le lait contient des hormones nocives pour la santé. C'est vrai ou c'est faux? Des hormones nocives pour la santé, c'est vrai ou c'est faux?
On dirait faux.
Eh bien, c'est faux. Ah, eh bien, c'est faux. Vous aviez raison. C'est faux. Mm. Oui. Nous ne possédons pas les enzymes nécessaires pour digérer le lait. C'est vrai ou c'est faux? Nous ne possédons pas les enzymes nécessaires pour digérer le lait.
C'est vrai et c'est faux.
Pour certaines personnes, c'est vrai. Les autochtones, entre autres.
Ah oui?
Oui, les autochtones ne sont pas nés au lait. Hein.
L'intolérance au lactose, non?
Ah, je sais pas. Le lait, posez-moi pas trop de questions. Là, moi, tout ce que je sais, c'est qu'un verre de lait avant de me coucher avec un petit biscuit au chocolat.
Ça dort bien.
Ça dort bien. Oui. Ensuite de ça, le lait n'est pas nécessaire. C'est vrai ou c'est faux? Le lait n'est pas nécessaire.
Ah, moi, c'est nécessaire pour moi.
Oui, pour vous. Non, mais je parle la planète, au niveau de la planète. Est-ce que les Chinois, c'est nécessaire pour les Chinois, le lait?
Non, le riz est nécessaire, le lait. Mais...
bon, ben voilà. Alors, il reste une minute. Pourquoi le lait n'est pas nécessaire? On va finir avec ça. Ben, le lait a sa place dans une saine alimentation en raison des minéraux et des vitamines qu'il contient, soulignent les experts rencontrés pour cet article. Et dans ses recommandations, la nutritionniste Annie Ferland donne un exemple, l'assiette santé élaborée par des chercheurs de l'Université Harvard. Dans cette assiette, où les produits laitiers sont considérés comme des protéines, ils ne font pas partie d'un groupe alimentaire en soi, on suggère de consommer un ou deux verres de 250 ml de lait par jour. On suggère. Le lait n'est toutefois pas essentiel comme source de calcium, car on peut trouver du calcium dans d'autres aliments. Surtout dans les rues hiver. Alors, par exemple, 30 grammes de fromage cheddar ou 60 grammes de sardines à l'huile, je préfère un verre de lait, en fournissent la même quantité qu'une tasse de lait, soit environ 300 mg. Alors, des sardines à l'huile. Okay? Et pour tirer autant de calcium de lait des légumes ou des noix, vous devrez en consommer davantage, soit quelques 3 tasses de bêta-carde ou des fèves et d'amame ou 200 ml d'amandes séchées. Et vous devrez aussi surveiller votre apport en vitamine D, étant donné que ces aliments n'en contiennent pas, contrairement au lait.
D'accord.
OK. Et je termine en disant que les boissons de soja, d'amandes ou de riz sont des solutions de rechange intéressantes au lait, à condition de privilégier les produits enrichis en calcium.
Alors, en regard avec ce que vous venez de lire,
oui,
je vais de ce pas pendant la pause musicale aller vous chercher un verre de lait à chacun.
Voilà. Oh que c'est gentil.
J'ai passé l'âge du militaire, sans trop chercher à faire la paix. Y a des blessures retardataires qui ne guérissent jamais. Je suis toujours propriétaire de sentiments comme le regret. Et si la nuit est conseillère, mes rêves sont encore en anglais. J'ai passé l'âge du savoir-faire. J'oublie souvent de bien parler. Je néglige un peu l'idée de me taire. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'oublie jamais, jamais d'aimer. J'ai passé l'âge de te plaire, mais je continue de m'essayer. Et si un jour je disais le contraire, faudrait peut-être penser m'enfermer. J'ai plus la rage de mon père, pendu la mort au bout du nez. Depuis que t'as résolu le mystère, le prolétaire, le salarié de ces années où j'ai vécu en millionnaire de la douce maladie d'aimer, de la douce maladie d'aimer. J'ai passé l'âge des premières, sans trop vouloir recommencer. Mais si je pouvais revenir en arrière, pas sûr que je me laisserais tenter. Je suis pas né de la pluie dernière, pour toi qui depuis me connais. Je chante la langue de ma mère, mais je rêve encore. J'ai passé l'âge de l'ordinaire, pas encore vieux mais fatigué. Et si j'oublie l'anniversaire, j'oublie jamais, jamais d'aimer. J'oublie jamais, jamais d'aimer. Et si j'oublie l'anniversaire, j'oublie jamais, jamais d'aimer.
Et c'est le titre de la pièce de Daniel Lavoie, J'oublie jamais, jamais d'aimer.
Merci beaucoup. Article que j'ai retrouvé dans le sélection Reader's Digest. C'est l'édition, en fait, du mois d'avril 2018. Et on cite ce qui suit, c'est un papier de Sidney Loney. On dit que chaque année, des milliers de patients quittent l'hôpital frappés du syndrome confusionnel, imaginez. Un trouble mental causé en grande partie par des soins inadaptés. On écrit ce qui suit. À 83 ans, Kenneth Marsden, charpentier à la retraite, jouissait de la vivacité d'esprit d'un champion de géopardie. Il terminait ses mots croisés en une demi-heure et récitait de mémoire les noms d'obscures villes anglaises de son enfance. « Je suis certaine qu'il aurait gagné s'il avait participé au jeu », affirme sa fille, Dawn Clark. C'est pourquoi elle s'est inquiétée en constatant qu'après une brève hospitalisation, il avait mis une journée entière à terminer la grille du Hamilton Spectator. Un matin de février 2017, Kenneth regardait la télé lorsqu'il s'est mis à saigner du nez. Ça coulait tellement qu'il avait du sang partout. Quelques heures plus tard, la famille s'installait dans une petite chambre beige de la clinique Saint-Joseph de Hamilton pour attendre un médecin. Dawn et sa mère, Rose, sont allées chercher du café. À leur retour, Kenneth était assis sur le lit, en larmes. un médecin avait introduit un tampon qui semblait énorme dans sa narine. Elle dit « Mon père souffrait atrocement. Il était paniqué. » Un peu plus tard, un autre médecin a corrigé le vaisseau nasal qui avait éclaté. Kenneth n'a pas beaucoup dormi pendant ces quelques jours à l'hôpital. Une infirmière le réveillait toutes les 3 heures pour veiller à ses signes vitaux. Il ne mangeait rien. Le bruit, l'éclairage, les allées et venues incessantes le dérangeaient et il redoutait de saigner à nouveau. On l'a renvoyé chez lui un jeudi soir. 2 jours plus tard, Rose, sa femme, affolée, téléphonait à sa fille. Son mari était debout depuis 4 heures du matin. Désorienté et agité, il errait en sous-vêtements. Dawn s'est précipité chez ses parents et a appelé les secours. En attendant l'ambulance, Kenneth a commencé à halluciner et à voir du texte apparaître sur le téléviseur qui était éteint. De retour aux urgences, il est devenu agressif, insultait le personnel, recrachait ses cachets contre l'hypertension. On lui a diagnostiqué une carence de magnésium, cause possible du saignement initial. Voyant qu'il ne pourrait recouvrer ses forces à l'hôpital, Dawn a ramené son père chez lui après quelques jours. Lors d'un rendez-vous de suivi, quelques semaines plus tard, la famille a appris que la confusion et les sautes d'humeur de Kenneth n'avaient rien à voir avec le saignement. Ce sont les soins hospitaliers qui l'avaient plongé dans ce délire. Le personnel des soins intensifs est sans doute à l'origine de troubles cognitifs qui ne seraient pas apparus naturellement, raconte Gordon Boyd. Il est neurologue et clinicien-chercheur à l'Université Queen's de Kingston, en Ontario. Chaque année, des centaines de milliers de patients sortent d'un hôpital canadien atteints d'un trouble mental provoqué en grande partie par une prise en charge inappropriée. Leurs fractures et infections ont été soignées, mais ils se concentrent et articulent plus difficilement, ont des accès de confusion et des hallucinations imaginées. Alors, je reviendrai dans la deuxième demi-heure avec le reste du texte. Il est très intéressant parce qu'on parle ici, je vous rappelle le titre, c'est de syndrome confusionnel. Alors, on s'en va à la pause. La deuxième partie de l'émission s'en vient dans quelques instants.
Voir autrement.
Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume, et surtout mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière. Et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Comme un loup qui viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat, je me sens comme une fontaine après un long hiver et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur et je n'ai pas eu peur. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. Je ne fais plus l'amour de la même manière et je ne sens plus ma peau me peser comme avant.
Ça devient la norme. Et pour le temps, ça devient la norme.
Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois. Comme un petit roi.
Un grand classique de la chanson québécoise, Jean-Pierre Ferland, Le Petit Roi.
Merci. Alors, Roger, on poursuit avec vous. Et quel sujet?
Moi, je suis tombé dans la Reader's Digest, la sélection du mois de mai. Mm-hmm. Et j'ai un texte qui commence par ceci. La musique adoucit les mœurs, mais peut-elle changer le monde? Nicolas Ellis en est convaincu. Le texte s'appelle Musicien de combat. Il est écrit par André Lavoie. Certains le comparent au chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, d'autres au jeune député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Il est vrai que Nicolas Ellis possède une grande ferveur pour la musique classique, lui qui fut pourtant le claviériste d'un groupe métal, Chelos on Fire, et s'est aussi fait remarquer lors du printemps érable en dirigeant deux concerts en soutien du mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité. Fils aîné de David Ellis, violoncelliste, et de Nathalie Camus, violoniste, le chef de l'orchestre symphonique de l'Agora, OSA, sait harmoniser son amour de la musique et son besoin d'engagement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser des concerts pour soutenir des causes sociales? Mes parents sont membres fondateurs du Quatuor Saguenay, longtemps connu sous le nom Quatuor Alcan, musicien de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, professeur au Conservatoire de musique de Saguenay, en plus de diriger le rendez-vous musical de La Terrière, et mon père est directeur artistique du camp musical de Métabetchouan. Ce sont des gens très impliqués, et ça ne pouvait que m'inspirer. Pendant le printemps érable, beaucoup de musiciens et d'étudiants en musique étaient en grève, mais désiraient vraiment jouer et s'engager socialement. Les deux concerts que nous avons tenus à l'église Saint-Jean-Baptiste se voulaient des moments rassembleurs et les profits du second ont été versés à l'association étudiante La Classe, mais c'était une modeste contribution parmi beaucoup d'autres événements. J'ai énormément d'admiration pour Gabriel Nadeau-Dubois. Léo Bureau-Blouin et lui se sont formellement engagés et jamais je n'oserais me comparer à eux. À l'époque, je ne me rendais pas compte que j'allais plus tard fonder un orchestre et que cela aurait une incidence sur ma carrière. Question, chaque concert de l'OASA soutient un organisme à qui reviennent 80% des profits. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix des causes? L'idée, c'est de jumeler les forces. Nous les aidons à accomplir leur mission. Ils nous aident en retour, par exemple. Nous avons soutenu l'organisation Partageons l'espoir qui propose un programme de musique destiné aux enfants issus de milieux défavorisés. Et les musiciens de l'OSA agissent comme mentors auprès d'eux. Nous collaborons aussi avec les porteurs de musique, des musiciens professionnels qui jouent dans les prisons, les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées, un organisme bien implanté dans différentes villes du Québec et depuis peu à Montréal. Comment élaborez-vous le programme musical? Choisissez-vous des œuvres qui reflètent la mission et les valeurs des organismes que vous soutenez? Au début, j'essayais de trouver des liens entre les œuvres et les organismes, mais il y a tellement de critères. Maintenant, je me demande si j'ai le goût de diriger une œuvre, si ça va être stimulant pour les musiciens, si ça respecte le budget que nous avons établi. En somme, on fait un concert, et c'est le concert qui est au profit de l'organisme. Par contre, je ne cacherai pas qu'en tant que jeune chef d'orchestre, l'OSA me sert aussi de laboratoire. Question, à l'aube de votre carrière, avez-vous des modèles, des chefs dont la démarche vous inspire? Je ne suis pas du tout groupie. J'ai du respect et de l'admiration pour certains, mais avoir de grandes attentes et ne pas atteindre ses objectifs, c'est décevant. Quelle que soit la direction que vont prendre ma vie et ma carrière, ce qui est important pour moi, c'est de faire des projets artistiques qui vont me nourrir. Vous arrivez dans un paysage culturel où la musique classique est de moins en moins présente dans les écoles et les médias, et où les orchestres jouent devant un public de plus en plus vieillissant, Est-ce que cette tendance vous préoccupe? Ça, c'est la question d'André Lavoie toujours. Réponse: comme mes collègues musiciens, je suis inquiet pour la place de la musique dans la communauté, dans la cité. Et comme d'autres jeunes de mon âge, j'y vois un défi. C'est pour cette raison qu'on essaie de créer des projets innovateurs qui peuvent redonner un souffle à la musique classique. Dernière question. À votre manière, tentez-vous de la démocratiser? Beaucoup de spectateurs ont peur de ne pas comprendre une musique à laquelle ils n'ont pas toujours accès. Réponse: d'où vient ce mythe que les gens n'ont pas le goût d'aller à un concert parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre? Ça revient sans doute un peu à la question de l'éducation et au fait que l'on vit dans un monde extrêmement rapide où nous sommes bombardés d'informations. Assister à un concert de musique classique, c'est s'ouvrir à ce que l'on va entendre, c'est faire le geste d'aller vers la musique. Il faut se laisser émouvoir. Alors, Nicolas Ellis, il a de grands objectifs. Il est jeune et il semble avoir de l'allant.
Ah, tout à fait.
C'est un article de Musicien de combat qu'on peut lire dans la sélection du Writer's Digest du mois de mai.
Du mois de mai prochain. D'accord. Je vous reviens dans quelques instants avec ma deuxième partie de texte. Alors, je vous rappelle un texte que j'ai retrouvé dans le Reader's Digest du mois d'avril dernier qui parle de syndrome confusionnel. Et je vous rappelle que chaque année, des centaines de milliers de patients sortent d'un hôpital canadien atteints d'un trouble mental provoqué en grande partie par une prise en charge inappropriée. On dit que leurs fractures et infections ont été soignées, mais ils se concentrent et articulent le plus difficilement, ont des accès de confusion et des hallucinations. En 2016, Kumar Dharmarajan, professeur à l'école de médecine de l'Université Yale, a analysé les données d'un essai clinique effectué dans le Connecticut sur 469 patients âgés. L'hospitalisation avait provoqué un délire chez 15% d'entre eux. Ils couraient un risque bien plus élevé de mourir dans les 90 jours suivant leur admission, entre autres parce qu'ils s'alimentaient mal, ne dormaient pas assez et restaient alités. Une sonde n'est pas censée empêcher le patient de se mouvoir, mais c'est ce qui arrive, note le docteur. Le syndrome confusionnel reste sous-diagnostiqué. Les soignants sont formés pour traiter la pathologie qui a mené à l'hospitalisation par l'effet de celle-ci sur la personne. Ce syndrome, identifié dans les années 1960, a porté plusieurs noms, mais on confond encore ces symptômes avec des signes courants de vieillissement. Comme la plupart des victimes sont âgées, on prend souvent leurs protestations à la légère. Le délire hospitalier est un épisode de confusion aiguë qui peut ressembler à la démence, alors que celle-ci est un trouble chronique dont le symptôme dominant est la perte de mémoire. Plus important encore, il est en général une origine humaine, ce qui veut dire que l'on pourrait théoriquement prévenir son apparition. L'hôpital étant le pivot du réseau de santé canadien, les urgences y sont essentielles. Non seulement, les plus âgés y sont admis en plus grand nombre que tout autre groupe d'âge, mais ils y séjournent plus longtemps et mobilisent plus de ressources. Ce faisant, ils risquent de succomber au délire et, donc, d'être réhospitalisés. Dans ce terrible cercle vicieux, le réseau de la santé devient contre-productif. Une fois rentré chez lui, Kenneth a perdu l'appétit, au point de jeûner parfois une journée entière. Il a cessé de se vêtir le matin, puis a renoncé à se lever. 4 mois après le diagnostic, il retourna à l'hôpital, cette fois pour un essoufflement chronique. Quand un patient a eu un épisode délirante, dit Joy Saint-Onge, médecin à l'hôpital Saint-Joseph, il reste vulnérable jusqu'à la fin de ses jours. J'ai vu des patients s'enrhumer et délirer à nouveau. En 2013, une étude a révélé que 74% des adultes admis aux soins intensifs d'un hôpital de Nashville, dans le Tennessee, avaient développé un syndrome confusionnel durant leur séjour. Un an plus tard, les 2/3 d'entre eux présentaient des symptômes de dégradation cognitive semblables à ceux d'une commotion cérébrale ou d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer. Les hôpitaux canadiens ont été lents à réagir et ne disposent toujours pas d'un protocole universel de prévention. Selon le docteur Dharmarajan, ils devraient s'inspirer des hôpitaux pour enfants qui accordent une grande importance au confort du patient et réduisent leurs perturbations et tensions inhérentes au traitement. Gordon Boyd a aidé une unité de soins intensifs à l'hôpital général de Kingston à mettre sur pied un programme de suivi. Les anciens patients sont invités à revenir parler de leur séjour et à revoir leur chambre afin de dissiper leurs mauvais souvenirs. Rogers Wong, vice-doyen à l'éducation de la faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique, aimerait utiliser des photos familières publiées sur les réseaux sociaux pour rassurer les malades. Roger Wong a mis le syndrome confusionnel au programme d'études dans son université. Il explique que les 17 facultés de médecine nationale souffrent des mêmes incohérences que le réseau de la santé. Le programme HELP, c'est le programme hospitalier spécial pour les patients âgés, élaboré en 1993 par Sharon Inouï, enseignante à la faculté de médecine de l'Université Harvard, est l'un des plus probants à ce jour. Il prévient la perte d'autonomie, la désorientation, la déshydratation et l'épuisement et s'implante peu à peu dans le monde. Les stratégies du HELP consistent, par exemple, à mettre un calendrier dans la chambre du patient, à réduire au minimum la sédation ou à coordonner les interventions du personnel infirmier pour éviter de réveiller les gens plusieurs fois par nuit. Il réduit de 40 % le risque d'un épisode délirante. La clinique Saint-Joseph a pris quelques mesures préventives. Ainsi, des bénévoles viennent bavarder avec les patients, sur les manchettes des journaux par exemple, pour les aider à se situer, mais la coordination entre les services est limitée. C'est une question de priorité et de ressources, dit le docteur Saint-Onge. Les hôpitaux peinent déjà à traiter les cas graves, alors la prévention est un peu négligée. Le père de Dawn a presque tout oublié de son chemin de croix. Et sa fille s'en réjouit. Elle regrette néanmoins de ne pas avoir été bien informée et mieux préparée à affronter la situation. Kenneth est rentré chez lui et prend des antidépresseurs, mais sa famille redoute un nouvel épisode délirant. La prochaine fois, Dawn agira au premier signe de confusion. Tant pis, si ça en énerve quelques-uns. Mais mon père sera soigné comme il se doit. Alors voilà cet article que j'ai retrouvé dans la sélection du Reader's Digest, qui s'intitule tout simplement « Guérir, mais délirant ». On vous revient dans quelques instants avec Serge et sa chronique sur les frigos. Alors, Serge, les meilleurs et les pires, c'est de ça que vous venez nous parler.
Je vous parlerai peut-être pas des pires.
Non.
Je vous parlerai des meilleurs.
On reste positif ce matin?
Les pires, on y va. On veut pas le savoir.
Bon,
alors donc. Alors, un bon frigo doit maintenir une température constante, congeler rapidement les aliments et être bien isolé et silencieux. Et voyez les champions de nos tests. Quand je dis de nos tests, c'est les tests qu'on effectue. Protégez-vous. D'accord? Le fonctionnement et l'utilisation d'un frigo sont simples. Et la majorité des appareils arrivent à bien faire leur travail. En premier lieu, il faut les brancher. Si vous voulez que ça fonctionne. Mais l'appareil idéal doit aussi être logeable et vous permettre de placer aisément tous les articles de votre épicerie sans vous casser les oreilles et avec des vrombissements intempestifs. Les dimensions. Avant de vous rendre en magasin, mesurez l'espace dont vous disposez. Ça va? La performance. Tester un réfrigérateur en magasin est bien sûr impossible. Pourtant, la puissance du compresseur, la capacité de congélation, la précision de la température ainsi que l'isolation thermique sont des aspects importants à considérer. Et ce sont donc les principaux éléments qu'on a évalués. Et tout bon appareil doit maintenir une température de 4 degrés centigrades dans la partie frigo et de moins 18 dans la section congélo. Si tous les modèles testés réfrigèrent correctement les denrées, il en va autrement de la congélation. Certains appareils sont incapables de maintenir une température de moins 16 degrés et obtiennent par conséquent la cote mauvaise. La logeabilité. Choisissez un appareil adapté à vos besoins. Les modèles de 17 à 20 pieds cubes accueillent aisément les provisions d'un couple ou d'une petite famille de 3 personnes. Mais si votre maisonnée compte 4 membres ou plus, une capacité de 21 à 28 pieds cubes sera plus appropriée. Sachez cependant que le volume en pieds cubes peut être trompeur, car c'est surtout la capacité de configurer l'intérieur du frigo à votre goût qui en assure la logeabilité. Optez pour un appareil muni de tablettes et de compartiments amovibles. Vous pourrez ainsi mettre à votre main l'espace de rangement. Les frigos dotés d'un congélateur à tiroir inférieur possèdent généralement un bac coulissant qui facilite l'accès aux produits. Même si le mécanisme du bac gruge un peu d'espace intérieur, ces congélateurs sont les plus ergonomiques de tous. Et les frigos, constitués de 2 sections côte à côte, une section pour le réfrigérateur et une pour le congélateur, sont pour la plupart longs et étroits et il n'est pas facile d'y loger des articles volumineux. Le bruit. Le compresseur du frigo est source de bruit dans une maison et on a mesuré en continu pendant 30 minutes le niveau sonore des appareils. Et bonne nouvelle, les réfrigérateurs sont plutôt silencieux puisque leur ronronnement demeure généralement sous la barre de 60 décibels, ce qui correspond au bruit d'une conversation ou de l'intérieur d'une voiture en marche. Ceux qui dépassent cette limite ont obtenu la cote moyenne. 3 détails à considérer. Les distributeurs d'eau et de glace sont certainement pratiques, mais ils vous privent d'espace de rangement. De plus, les réfrigérateurs qui en sont dotés sont plus énergivores. Les tablettes et paniers réglables constituent un atout si vous souhaitez configurer votre réfrigérateur à votre guise et le réglage de la température par section vous assure que les boissons ne gèlent pas et que la viande soit bien conservée. Bon, alors, vous avez besoin d'un frigo ce matin. Quelle sorte? Bon, en première position cette semaine, avec 88%, LG, prenez ça en note, LFN, S225-20S, LFN, S225-20S, le prix, prenez pas en note, 1400.
Et quand même! Alors, je barre le numéro.
Le deuxième, 1350, c'est le Whirlpool. Ah. Whirlpool, OK, 1350. Mm-hmm. Je vous... Bon, on va laisser faire les numéros. Et ce que je vous suggère, moi, arrivant avec 82% en troisième position cette semaine, le Frigidaire, le réfrigérateur de marque Frigidaire. Uh-huh. OK? $950.
Ah!
Alors, lui, quand même. Hein? Et c'est le moins cher des meilleurs. Uh-huh. Ça va? En fait, ce n'est pas le meilleur. Les deux meilleurs choix, c'est le LG et le Whirlpool que je vous ai mentionné. Puis après ça, c'est un bon choix, c'est marque Frigidaire. Qu'est-ce qu'il a, lui, de si bon que ça, Marc Frigidaire? C'est qu'au niveau de la performance, c'est un plus. Facilité d'utilisation, c'est un plus. La logeabilité, c'est un plus. Et le bruit, c'est un plus. Ce qui lui donne une note de 82%. OK? Ah. Les autres, ben, c'est des plus-plus. Mm-hmm. Les deux en avant, là. C'est vraiment bon. OK? Et aussi, il y en a un autre, un bon choix, mais $1400 le Samsung. Alors, allons-y pour le Frigidaire, hein?
Ouais.
À $950. Franchement, c'est bon. Et ça, c'est dans la largeur des 30 pouces.
Ah, OK.
Mais vous pouvez avoir des largeurs de 33 pouces et des largeurs de 36 pouces.
Qui sont forcément plus logeables.
Qui sont, ben oui, bien sûr. Oh là là, le meilleur, c'est le LG. 2050$ dans le 33 pouces, oh là là, avec une note de 89%. Hein? Mais il y a l'autre, Amana. Ça, je voulais le mentionner. Le Amana, c'est le meilleur choix. À $1200 dans le 33 pouces. Et il y a le General Electric. Il y a le General Tao en Chine, mais le General Electric ici, hein, est $1350. C'est dans les meilleurs choix pour les 33 pouces. Oh, le Samsung, dans les meilleurs choix, $1900. C'est cher, hein, les frigos. Bon.
Mais ceux-là, c'est les plus larges.
Ça, c'est dans les 33 pouces. Vous en voulez un 36 pouces maintenant? Envoyez donc. Eh bien, c'est le Whirlpool. Alors, vous pouvez prendre un bain tourbillon dans votre bain en même temps, dans votre frigo.
Avec
le Whirlpool, avec une note de haut de 90 % hein? Et 1800. Ça, c'est 36 pouces, ça, c'est grand. Hein? Ensuite, le KitchenAid 2450, le Samsung 1500 $ dans le 36 pouces. Alors, ça vous donne une idée ce matin. Donc, alors, dans les largeurs de 30 pouces, je répète, nous avons le LG à 1400, le Whirlpool à 1350, et ensuite, on tombe dans les bons choix. C'est la marque Frigidaire à 950 $ et le Samsung à 1400 $. Alors, moi, j'opterais pour le marque Frigidaire. Hein?
Oui, tout à fait.
Ça vous va? Est-ce que vous avez besoin de savoir autre chose à propos des frigos?
Non, ça va aller.
Ça, c'est correct?
Oui, je pense que oui. On peut lire l'article, en fait.
Ah, bien sûr, dans la revue Protégez-vous, hein?
Mm-hmm.
De mars 2018.
Exactement. Mm? Alors, vous savez que c'est la dernière journée pour envoyer ses impôts? Hein?
Ah, ben oui.
Eh bien, je reviens dans quelques instants avec quelques petites astuces.
OK.
Alors, dernière journée, et c'est minuit ce soir, l'heure fatidique hein, pour envoyer vos impôts, autant provincial que fédéral. Et voici quelques astuces que j'ai retrouvées dans le Reader's Digest. Si jamais vous avez le temps de le lire avant minuit ce soir et avant de remplir votre déclaration, on dit que remplir sa déclaration en retard ne nuirait pas à votre code de crédit, mais peut entraîner des pénalités et des intérêts qui gonflent l'impôt à payer. Faute de recevoir votre contribution, l'Agence du revenu Canada ainsi que du côté du Québec peut saisir votre salaire même ou même obtenir d'un tribunal l'autorisation de saisir vos biens, imaginez. Autre petite astuce, faites votre déclaration même si vous êtes incapable de rembourser. Très important. Le défaut de paiement est pénalisé, mais moins lourdement que la non-déclaration. En cas de... Et pas de panique, hein, on dit. Vous pouvez négocier des modalités de paiement si vous éprouvez quelques difficultés. On peut aussi vous faire grâce de la pénalité des intérêts si vos problèmes financiers tiennent à des circonstances indépendantes de votre volonté, comme une maladie ou un licenciement. On dit aussi, autre petite astuce, conserver ses reçus pendant au moins 6 ans. Très important. C'est capital, précise Shannon Mathieu, comptable agréé chez Whithaven Accountant en Ontario. On s'imagine que les relevés de cartes de crédit ou de banque suffisent, mais l'ARC ne les accepte pas, explique-t-elle, car il n'indique pas les achats. On dit aussi, si on vous convoque, ben hélas, faites-vous accompagner par un comptable ou un avocat. Un professionnel peut répondre en votre nom, insiste Mme Mathieu, et présenter la documentation et les références qu'il faut pour vous éviter une réévaluation de la cotisation ou même un contrôle approfondi. Et je vous tiens grâce des autres petites astuces, mais vous pouvez toujours aller lire ça dans le Reader's Digest de Sélection. Roger, vous avez une petite brève?
Oui, les bébés qui sont des indices de récession. Pour savoir si l'économie est sur une pente ascendante ou descendante, il suffirait de se tourner vers le rayon des tests de grossesse à la pharmacie. En effet, des chercheurs du National Bureau of Economic Research ont découvert que le taux de conception aux États-Unis baissait plusieurs mois avant l'arrivée d'une récession, au même rythme et même plus tôt que les indicateurs économiques traditionnels, ce qui porte à croire que les couples sentent que leurs conditions financières risquent de se détériorer et remettent ainsi à plus tard leur décision d'ajouter un bébé à la famille.
Ah, oh, quand même. Ah, et saviez-vous aussi que la farine crue est un vecteur du colibacille? Savez-vous c'est quoi le colibacille?
De quoi s'agit-il?
On dit que la farine contaminée au colibacille aurait causé une grave épidémie aux États-Unis en 2016. C'est des souches du toxique du E. coli qui provoquent des crampes d'estomac, des diarrhées sanglantes, des vomissements et, dans les cas extrêmes, une défaillance rénale, imaginez. On savait que la bactérie prolifère dans les viandes peu cuites, Aussi, on a été surpris de la trouver dans la farine sèche. Les autorités sanitaires recommandent donc de se laver les mains après avoir touché à de la farine et de ne pas en manger cru. Ben, je pense pas que ça soit très, très bon, la farine là, matin, ou non pasteurisé, voilà. Alors, nous, c'est terminé pour nous, mais restez à l'écoute. Il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui s'en vient avec cette semaine François Brodeur qui est tout sourire de l'autre côté de la vitre et qui s'en vient. Et n'oubliez pas, cette émission-ci est en rediffusion dans la journée aujourd'hui. Et vous pouvez avoir tous les détails sur le site internet canalm.vuesetvoix.com. On vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, mes deux messieurs, mes deux collaborateurs.
Oui, bonjour, bonsoir.
Au revoir.
Faites attention à la pluie, soyez prudents sur la route surtout. Quelquefois, c'est glissant. On vous souhaite une excellente semaine.